Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bel Aujourd'hui, podcast de Forum Opéra consacré à la création contemporaine. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Zad Moultaka, compositeur libanais établi en France depuis plusieurs années. Nous nous retrouvons à l'occasion de deux concerts qui auront lieu au mois de juin. D'une part, la création d'Inanna pour deux voix et trois instruments traditionnels le 14 juin à Marseille. Ce sera par l'Ensemble Musica 13 et le Migre Ensemble. Et d'autre part, la reprise le 28 juin de Renrenu pour chœur mixte, toujours par l'Ensemble Musica 13 et plusieurs ensembles vocaux de la région. Zad Moultaka, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors je voudrais commencer par revenir un peu sur ce long compagnonnage qui vous unit à l'Ensemble Musica 13. Inanna et Renrenu, c'est en quelque sorte la partie émergée d'une collaboration qui est bien plus longue. Il y a eu plusieurs projets, notamment scéniques. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce chemin parcouru avec l'ensemble et avec son directeur musical, Roland Erabédian?
En fait, j'ai rencontré Roland en 2007 et on ne s'est plus quitté à partir de ce moment-là. En fait, j'assistais évidemment à beaucoup de concerts de Musica 13. Et puis, quand on s'est rencontrés, on a commencé par une petite collaboration. Et petit à petit, ça s'est développé. Et c'est quelqu'un que je trouve vraiment formidable parce qu'il n'a pas peur. Et on a construit des projets complètement fous. Et à chaque fois que je lui proposais quelque chose... Il était partant et donc en fait il donne une liberté absolue au compositeur et c'est vraiment quelque chose de très précieux.
Parlons alors d'abord d'Inanna qui est la pièce présentée en création donc le 14 juin. Inanna c'est cette déesse sumérienne, on la connaît peut-être un peu mieux sous son équivalent assyrien d'Ishtar. Pourquoi le choix de s'intéresser à cette figure mythologique?
En deux mots, c'est la déesse de l'amour et de la guerre. Et je trouve que déjà en elle, elle contient quelque chose de très paradoxal et que j'aime bien questionner. En plus, dans ces textes-là, il y a une force poétique et érotique qui est absolument époustouflante. Et il y a tout là-dedans.
Ces textes, quels sont-ils justement?
Ça vient de... Donc on a Enuma Elish, qui est le texte de la création. On a Atrahasis, qui est le texte du déluge. En fait, on trouve dans ces textes toutes les répercussions ou tout ce que ensuite la Bible a vraiment pioché là-dedans. Donc on a toute notre histoire qu'on a tendance à faire débuter à la Bible. Mais en fait, elle date de bien, 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 bien avant. Par exemple, le déluge qu'on peut trouver dans une des tablettes, je crois, la tablette numéro 8 de Gilgamesh, c'est extraordinaire. Il y a tout dedans. Il y a même jusqu'à l'explication de comment, de quoi était fait l'arche, quoi, le bateau. Et c'est assez extraordinaire.
Et ces textes sont chantés en quelle langue, en l'occurrence?
Alors, il y a certains textes où on a la translittération donc du sumérien en lettres latines. On a beaucoup de textes qu'on peut trouver. Et par moments, en fait, j'aime bien détourner les choses, c'est-à-dire d'inventer ma propre langue aussi. Et en fait, j'ai trouvé une combine qui marche assez bien, qui est de prendre le texte français et de le lire à l'envers, avec une prononciation qui devient vraiment une prononciation sémite. Et ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Et je fais ça pas seulement pour l'anecdote, mais parce que le problème, quand on est juste avec une langue inventée, c'est qu'on se coupe par moments du sens du verbe, ce qui peut aider à l'approfondissement de certaines choses, d'une certaine mélodie ou d'un certain son, etc. Donc le fait de ce détournement me permet en même temps de m'éloigner du sens premier et de temps en temps de pouvoir me raccrocher à un mot qui va illuminer une phrase ou quelque chose.
Ce truc, cette astuce de lire le texte français ou en tout cas latin à l'envers, il a des conséquences musicales ou est-ce que c'est simplement un prétexte pour trouver une matière phonétique, disons, à la pièce?
Non, pour moi, le mot est comme un instrument. Donc, il a sa propre résonance. Et donc, non, c'est très important, la résonance du mot. C'est pour ça aussi que ça me permet, avec ce jeu-là, entre guillemets, parfois de choisir un mot spécifiquement pour un effet quelconque, un effet précis.
Justement, puisqu'on parle d'instruments, cette pièce-là a un instrumentarium hybride en quelque sorte. On a d'un côté deux chanteurs lyriques classiques issus de Musica 13 et puis trois instruments traditionnels issus du Migre Ensemble. Comment est-ce que ça se passe, le dialogue de ces deux pratiques musicales qui sont, somme toute, assez différentes?
Alors c'est là toute la question, et d'où l'ensemble Migrant Ensemble, qui est un espace de questionnement, mais qui date depuis pas mal d'années, depuis ma résidence à l'abbaye de Royaumont, à l'invitation à l'époque de feu Frédéric Deval, où c'était le début de cette réflexion de comment on peut amener ces instruments traditionnels vers la musique contemporaine, vers la musique d'aujourd'hui. C'est une question très complexe parce que je me suis rendu compte, par exemple, lors des premières expérimentations, que écrire une pièce pour Kanoun, par exemple, dès qu'on sort de la tradition ou du langage du Kanoun, ben, il ne sonne plus comme un Kanoun, il sonne comme un autre instrument. Donc comment garder sa spécificité, sa personnalité, tout en le déplaçant, c'est toute la question.
Vous dites amener les instruments traditionnels à la musique contemporaine. Est-ce que le chemin se fait aussi dans l'autre sens, amener les chanteurs contemporains classiques à de la musique, à des pratiques qui se rapprocheraient plus de celles de la musique traditionnelle?
Évidemment, la question, c'est la rencontre des deux. Et par rapport à la voix, ça passe évidemment par la microtonalité, par les modes, et aussi par les timbres et par une manière de chanter ou d'émettre la voix.
L'autre œuvre dont on pourrait parler, dont on va parler, c'est Renrenu, puisqu'elle est reprise le 28 juin prochain. C'est un projet d'une envergure assez différente, puisque c'est une pièce d'une soixantaine de minutes. C'est pour chœur mixte, alors chœur avec un S est mixte aussi. Le projet est autrement particulier, puisque la pièce connaît en réalité deux versions possibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être sur le projet en général et sur ces deux versions qui existent?
Oui, en fait, la pièce a été créée pour chœur, grand chœur amateur et 16 chanteurs professionnels. Et l'idée, c'était qu'on puisse la donner sans le grand chœur amateur. Donc, j'ai fait enregistrer, en fait, le chœur amateur et c'est devenu une pièce électronique avec 16 solistes, avec une spatialisation, parce que le chœur amateur, au début, est caché pendant une grande, grande partie de l'œuvre. Et au bout de presque 40 minutes, il y a le surgissement des choristes qu'on entendait au lointain qui arrivent avec des percussions, tout ça, enfin, et qui envahissent l'espace scénique. Et c'est une pièce qui est basée sur le rituel, sur le livre des morts des anciens Égyptiens.
Mmh. Donc côté rituel, assez important.
Très important, oui.
Vous mentionnez donc la spécificité des chanteurs amateurs dans cette pièce. À quoi est-ce que c'est dû ? Est-ce que qu'est-ce qu'on trouve chez un chanteur amateur qu'on ne trouve pas chez un chanteur professionnel ?
En fait, moi j'aime considérer les chanteurs amateurs comme quand on considère un ensemble vocal avec sa couleur. Donc, un chœur amateur, il a sa propre couleur, puisque les voix ne sont pas travaillées de la même manière. Donc il y a quelque chose d'assez brut, entre guillemets, et c'est cette chose-là, moi, qui m'intéresse, parce que c'est avec ces voix-là qu'on peut toucher quelque chose d'assez peut-être archaïque, on peut dire, ou des choses gutturales, des choses que parfois c'est difficile, enfin c'est parfois difficile de toucher avec des chœurs professionnels. Mmh. Et qui cherchent la beauté du son, etc. Et là, on a quelque chose, oui, de premier, quelque chose d'archaïque.
Donc, pour ce texte du Livre des Morts, il est chanté en quelle langue ? Toujours selon le même principe d'un mélange entre la langue d'origine et quelque chose que vous auriez inventé ou c'est...
Alors, contrairement au texte sumérien, je n'ai pas trouvé de translittération de ces textes qui sont écrits en hiéroglyphes, en fait. Du coup, j'ai travaillé surtout avec ce jeu d'inversion et aussi de travail sur des phonèmes et sur des inventions de mots qui deviennent comme un instrument, comme je disais tout à l'heure. Donc, en fonction de ce que je cherche au niveau d'un effet sonore, je vais inventer un mot.
Ce que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, c'est que dans les deux pièces dont on parle, Ainana et Khenkhenu, elles sont jouées dans des lieux particuliers. C'est-à-dire d'un côté, c'est l'agora du Vieux-Port de Marseille, et de l'autre, c'est le théâtre de verdure, de Château-Double, donc deux lieux en plein air. Est-ce que d'abord c'était prévu, et est-ce que ça change quelque chose d'écrire de la musique en plein air versus de la musique pour une salle de concert ou une église, ou quoi, en tout cas un lieu plus habituel pour nous?
Bien sûr, surtout par rapport à ces pièces spécifiquement, puisque ce sont des pièces qui sont assez rituelles, enfin qui questionnent cet espace-là. Le fait qu'elles soient données en plein air ou dans une... Par exemple, Khenkhenu a été créée à l'abbaye de Silvacane, et j'ai été visiter l'abbaye avant de commencer à écrire la pièce pour voir où j'allais placer les chanteurs, quelle est la proximité par rapport à l'endroit où le public est, etc. Comment ils peuvent se déplacer. Et tous ces éléments-là m'aident ensuite à construire la pièce. Donc j'ai acoustiquement l'acoustique du lieu.
Oh.
Zad Moultaka, je voudrais évoquer un autre point commun et élargir un peu le champ de vision et en s'intéressant aussi au reste de votre catalogue. Nombre de vos œuvres s'inspirent de cultures qu'on qualifie un petit peu hâtivement de méditerranéennes, on peut être plus précis d'ailleurs. Il y a bien sûr l'Égypte dont on a parlé, il y a la Grèce d'Hercule, de Hémon, il y a la Jérusalem du Tasse, même le Croissant Fertile avec Inanna et d'autres pièces. Est-ce que c'est un hasard d'affinité élective géographique ou est-ce qu'il y a un point commun culturel, un dénominateur commun à toutes ces provenances selon vous ?
Alors d'abord, ce qui est important, c'est que pour moi, c'est une démarche intuitive. C'est-à-dire ce n'est pas intellectuel. Je ne dis pas, tiens, je vais travailler sur des textes méditerranéens. En fait, à un moment donné, j'ai fait le constat que ce qui m'attire, c'est ces textes-là qui sont en effet reliés par cette Méditerranée ou par quelque chose. Donc je crois que c'est, oui, ça a un rapport peut-être avec mon... Avec ce que je suis ou d'où je viens, et qu'il y a toutes ces résonances qui sont en moi en tant que méditerranéen, et il y a des affinités qui sont là, qui sont préexistantes, je pense, oui.
Vous disiez quelque part, j'ai lu, que la musique arabe était dans une impasse. Alors de quelle musique arabe est-ce qu'on parle et qu'est-ce qu'on entend par impasse ?
Bonne question. J'ai dit ça
il y a
très longtemps. Oui, en fait, l'impasse dans le sens où on voit qu'il y a une musique arabe, je parlais de la musique arabe traditionnelle, qui est une musique extraordinaire, qui est comme la musique japonaise traditionnelle ou la musique chinoise traditionnelle. Enfin, il y a toutes ces cultures qui ont donné des musiques vraiment fabuleuses et des instruments qui vont avec. Après... On sent depuis le début du XXe siècle une volonté d'amener cette musique, de l'amener ailleurs. Donc, en fait, c'est des mouvements qui sont tout à fait naturels. On voit ça en peinture, avec la peinture du début du XXe aussi, qui va aller piocher dans l'Afrique, ou qui va pour alimenter, pour faire évoluer, entre guillemets, même si je ne crois pas du tout dans cette notion, enfin de moins en moins, de la notion d'évolution. Donc la question, c'était comment se nourrir de cette musique traditionnelle, mais en l'utilisant comme une matière aussi culturelle, comme a fait l'Occident, comme a fait Debussy avec les gamelans, etc. Et c'est là où j'avais dit qu'elle était dans une impasse, parce qu'on voyait les musiciens ou les créateurs ou tomber dans un excès de traditionnalisme, comme peuvent parfois en Occident, comme on peut donner parfois dans un excès de néo-classicisme, ou bien l'amener vers des endroits qui sont, enfin, à mon sens, pas très convaincants. Par exemple, je ne vais pas donner d'exemple.
Vous parliez du canon, ou s'il ne joue plus comme un canon, ça ne soit plus comme un canon, c'est un peu ça que vous...
Il est là le problème, c'est que ou bien on l'amène trop vers quelque chose qui ne lui appartient pas, du coup il perd son caractère et son identité, ou bien on va l'amener vers des musiques du monde, ou du jazz, ou etc., ce qui peut être très intéressant en soi, hein, je ne juge pas du tout, mais ce n'est pas très convaincant par rapport à une quête, en fait.
Ce qui vous intéresse, en tout cas.
Non. Donc, toute ma quête était de savoir comment je peux amener ces instruments vers moi, en fait. Parce que la musique traditionnelle, la musique arabe n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin d'elle pour me nourrir, en fait. Mais comment je me nourris d'elle, c'est ça la question.
Et vous avez changé d'avis depuis, puisque...
Non. Je pense qu'elle est dans une impasse.
C'était aussi, c'est cette impasse qui vous a fait envisager donc ce projet du Migre Ensemble. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu définir quels en sont les musiciens, quel est son fonctionnement ?
En fait, il n'y a pas de musicien spécifique, puisque c'est un ensemble à géométrie variable et qui est basé sur la rencontre. Mm-hmm. Et pour moi, c'est quelque chose de très important de travailler avec des musiciens, et surtout ces musiciens traditionnels qui sont porteurs d'une tradition extraordinaire, et d'un savoir-faire que moi je n'ai pas, et une connaissance de ces instruments et de cette tradition. Donc l'idée de ces rencontres, c'est de chercher ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec un instrument comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec un canon, comment on peut... Donc évidemment, je viens avec des idées, j'ai trouvé certaines idées sur lesquelles on travaille et on questionne, et on avance. C'est un laboratoire, en fait.
Zad Moultaka, ce que vous disiez sur les instruments traditionnels de la musique arabe, cette tension entre d'un côté les tordre vers une musique contemporaine pour laquelle ils ne sont pas faits, ou un espèce de pis-aller d'improvisation façon musique du monde, on peut le retrouver aussi des problématiques similaires, disons, dans le traitement contemporain d'instruments anciens, et je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Vous pensez que c'est les mêmes problématiques qui sont en jeu, ou c'est un petit peu différent?
C'est, sans aller chercher dans les instruments anciens, même dans les instruments modernes, il y a tous les travaux de Berlioz, et oui, j'allais dire Berlioz, bah aussi.
Ça aurait pu.
Aussi. C'est pas que ça aurait pu, c'est que c'est là. Et en fait, la seule différence, c'est que l'Occident, pour aller vite dans ses appellations, a fait un chemin. Un chemin de destruction qui a permis une sorte de reconstruction, de questionnement sur les instruments, tous les modes de jeu qu'on connaît des instruments traditionnels occidentaux, de l'orchestre. Donc ce travail a été fait alors que dans les pays arabes et dans ces traditions dont je parle, le travail n'a pas été fait. Et c'est là que c'est, je trouve, dommage. Et qu'il y a quelque chose à faire. Donc ça répond aussi à la question des instruments anciens.
Vous serez le Lahren Mann du canon.
J'aurais pas cette prétention.
Quand on consulte votre catalogue Zad Moultaka, c'est aussi la grande, enfin on en parle déjà depuis un moment, mais c'est la grande variété de supports pour la musique qu'on y trouve. Donc il y a, dans une même œuvre, on trouve aussi bien des instruments classiques, des instruments traditionnels, des instruments anciens, des voix, parfois des voix d'amateurs, de la musique électronique. Comment est-ce que votre musique s'accommode de toutes ces provenances et devient votre musique?
Alors moi, je crois, il y a un poème de... Est-ce que c'est un poème de Rilke ou... Non, je pense que c'est une phrase de Paul Klee, plutôt, qui m'a nourri tout le temps. C'est qu'il dit, bon, je vais le dire très mal, mais en substance, c'est que l'art, en fait, est une chose... C'est un espace dans lequel il y a une substance commune, et ensuite, ce sont les visages qui diffèrent. Ça veut dire que la source est la même. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup. C'est-à-dire que je cherche ce qui est source en moi, pas en tant que... Je ne m'arrête pas juste au fait que je sois libanais ou à ma tradition, en tant que, ou à ma culture libanaise. Mais justement, c'est pour ça que j'élargis vers, comme on disait tout à l'heure, vers la Méditerranée, vers tous ces textes anciens dans, avec lesquels je sens une affinité et qui me font résonner, en quelque sorte. Et à partir de là, je laisse les choses se faire. Donc si, à un moment donné, il y a... C'est comme un acteur, en fait, qui va prendre des masques. Parce qu'en fait, dans la phrase de Clé, voilà, en fait, il parle beaucoup de masques, de ces masques. Et je pense que c'est une notion, enfin pour moi, c'est une notion très intéressante. Du coup, qui me libère aussi. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de m'enfermer dans un langage ou dans quelque chose. Je suis en quête de quelque chose. Et par moments, j'ai des appels là, que ce soit par l'électronique ou que ce soit par un instrument traditionnel ou un instrument... finalement, ce sont que des moyens pour arriver à quelque chose qui pourrait s'approcher d'une certaine source. En tout cas, j'espère.
Il n'y a pas de concession à faire d'un point de vue musical dans la
réunion. Pour moi, aucune concession. Le mot d'ordre, c'est l'intériorité, c'est d'aller... au plus profond de soi, d'essayer, parce que c'est un chemin difficile. Et pour moi, un créateur doit apprendre des chamans. C'est ce chemin-là qu'il faut emprunter.
Apprendre des chamans dans l'idée d'aller à l'intérieur de soi.
D'aller dans les profondeurs, et c'est très difficile. Il y en a qui n'en sortent pas indemnes. Mais accepter ce chemin-là, et, quitte à ne pas en sortir indemne. Mais tout nous pousse aujourd'hui à rester sur les surfaces des choses. Et le fait, justement, d'appartenir à une chapelle, ou à une école, ou à une... donne une forme de tranquillité ou, qui fait que ça nous empêche parfois à justement aller questionner dans les profondeurs et qui sont des endroits où on n'a aucune sécurité.
Est-ce que, finalement, votre travail de composition, c'est pas autant... mais même presque plus le fait d'assembler ses sources et ses provenances que d'écrire la musique en toutes notes qui finalement est-ce que ça n'est pas autant une partie du composition que du travail de composition que cette formulation par écrit
je ne cherche pas à assembler là encore c'est pour ça pour moi le terme hybride ou l'hybridation n'est pas un mot pour moi, je n'aime pas ce terme. Il y a quelque chose qui me dérange dedans, parce que dans l'hybride, il y a la notion de non-fertile. Quand on regarde la nature, bon, c'est un grand débat.
Oui, bien sûr. Enfin,
en tout cas, c'est un point de vue. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas contre le concept d'hybridation, mais je suis contre le fait de vouloir être dans une attitude d'hybridation. Moi, je suis fait de milliers de morceaux, en fait. Et on est tous faits on est morcelés. Donc, c'est aller dans sa source, commencer par approfondir, comme je disais tout à l'heure. Le travail, à partir de ce moment-là, se fait d'une manière naturelle. C'est-à-dire, je ne vais pas décider d'aller prendre de là et de là, de là, de là. Ça, du moment qu'on est dans une quête intérieure profonde... les choses se font d'une manière, elles viennent à vous d'une manière naturelle. Ensuite, on peut dire que c'est une hybridation, pourquoi pas, mais elle n'est pas dans une volonté d'hybridation.
J'ai dit tout à l'heure que vous étiez le Lahrenmann du canon, je persiste et signe, puisque je crois que Lahrenmann qui dit composer, c'est aussi laisser venir.
Ah, merci.
Merci beaucoup Zad Moultaka de votre présence avec nous aujourd'hui. Je rappelle les deux événements dont nous avons discuté. D'une part, la création d'Inanna pour deux voix et trois instrumentistes. Ce sera avec les forces vocales de Musica 13 pardon, et instrumentales du Migre Ensemble, le tout sous la direction de Roland Erabédian. Ce sera à Marseille le 14 juin sur l'Agora du Vieux-Port. Et il y aura d'autre part la reprise de Renrenu par un effectif impressionnant, puisqu'on y retrouvera toujours Musica 13, bien sûr, mais aussi l'ensemble Madrigal de Provence, la Camerata vocale de Draguignan, l'ensemble Méridiem Borealis, l'ensemble vocal d'Arles, et le chœur d'enfants de l'école de Château-Double, le tout placé sous les directions de Marion Schur, d'Adèle Ponce et bien sûr de Roland Erabédian. Quant à moi, je vous retrouve sans tarder pour un nouvel épisode du Bel Aujourd'hui. À très bientôt.